Ce balado est un contenu publicitaire payé par Desjardins.
Joseph Armand Bombardier, c'est vraiment quelqu'un qui visait le top. Donc, évidemment, il mettait les heures en conséquence. Là. C'était quelqu'un qui travaillait excessivement. Quand il a ouvert son garage, il y avait 3 employés. Après ça, quand il a commencé à faire des attanages, bien là, on a tombé à 7. Après ça, il a construit une usine sur la rue principale à Valcourt en 1941. Donc là, on tombait là, à plus de 100 employés. Puis, vers la fin de sa vie, plus des années 60, on est là à plus de 400-500 employés.
Je m'appelle Laurent Duvernay-Tardif. Puis à l'invitation de Desjardins, j'ai demandé à des gens de partout au Québec qu'est-ce que ça veut dire pour eux être ambitieux. Parce que le mot ambition n'a pas toujours une connotation positive. Puis on a une relation bien particulière avec ça. On veut réussir, on veut du succès, mais on veut surtout pas avoir l'air de s'en vanter. Bref, je me suis dit qu'on était dû pour plonger ensemble au cœur de l'ambition. Après avoir démystifié les origines de l'ambition dans le dernier épisode, ben j'ai envie de retracer le parcours de certains des entrepreneurs les plus ambitieux et ambitieuses du Québec. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à rêver grand? Est-ce qu'il y avait un point en commun à leur succès? Est-ce qu'ils étaient prédisposés à réussir? Puis pour commencer cette quête-là, ben je propose qu'on se tourne vers une des personnes qui a marqué l'imaginaire québécois, Joseph Armand Bombardier. Je sais pas pour vous, mais je me suis dit que le papa de la motoneige avait sûrement une ou deux choses à nous apprendre à propos de l'ambition.
Joseph Armand Bombardier, son premier véhicule qu'il va concevoir, c'est en 1922. Fait qu'à ce moment-là, il a juste 15 ans. À l'époque, son père il avait donné un véhicule jugé réparable. Bien, lui, il va réparer le moteur, il va le placer sur des patins de traîneau. Puis il va se faire un véhicule là, super dangereux, mais fonctionnel. Je m'appelle Raphaël Bourgeois, je suis co-directeur du musée Conservation et Diffusion au musée de l'ingéniosité Armand Bombardier. À cette époque-là, on s'entend, son but, c'est surtout un jeu. Hein? On est dans le temps des fêtes, il s'occupe comme il peut, il va créer ce véhicule-là avec son frère. Mais déjà là, ça va semer une graine dans lui, là, de dire, OK, je suis capable de créer des affaires. Ça va vraiment plus prendre là, effet dès qu'il va ouvrir son garage ici même à Valcourt, là, en 1926, à l'âge de 19 ans. À ce moment-là, au Québec, là, le déneigement des routes est très, très, très limité. Donc, on s'entend, là, on déneige peut-être quelques rues à Montréal là, avec des chevaux, entre autres, etc. Mais en région, on peut pas circuler vraiment l'hiver. Et c'est du chômage pour lui et pour les autres garagistes. Donc, il faut qu'il trouve une solution ou quelque chose pour donner un peu de travail aux gens. Donc, pendant environ 10 ans, à chaque hiver, il va expérimenter des prototypes pour développer finalement son premier véhicule, le tonnage B7. Il va en faire quelques-uns la première année pour après ça vraiment y aller, on va dire, de doubler là, année après année. On commence tranquillement, mais après ça, ça explose si on veut. Vers 1947-1948, il y a peu de neige au Québec, puis le déneigement des routes se fait, donc les ventes chutent drastiquement. C'est là que la solution est venue d'exploiter d'une certaine façon le milieu agricole. Joseph Armand Bombardier va développer un système encore là avec des chenilles puis une roue de suspension additionnelle pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type de tracteur. Ça va être un succès phénoménal. Là. Il va s'en vendre vraiment partout aux États-Unis et en Europe. Il y a des grosses compagnies de tracteurs qui vont essayer d'acheter ses brevets vraiment pour avoir une exclusivité, mais M. Bombardier va décider lui-même les produire. Fait que c'est là que le côté international débute. Il avait passé dans une entrevue à Radio-Canada. C'est la seule entrevue où qu'on voit Joseph Armand Bombardier s'exprimer.
Et alors, je suppose que, évidemment, votre industrie est en plein essor, alors.
Oui, nous croyons qu'il serait possible de suffire à la demande encore pour cette année, parce que le marché va demander plusieurs milliers d'unités avant d'être comblé.
Eh bien, alors, vous avez donc un bel avenir devant vous, n'est-ce pas, monsieur?
Bien, on vit dans l'espérance, et puis l'espérance nous mène loin.
On vit dans l'espérance, puis l'espérance nous mène loin. On devrait mettre ça sur des T-shirts.
C'était quelqu'un qui pouvait pas se faire dire non. Un fournisseur, par exemple, n'était pas en mesure de fournir tel type de pièces. Ça ne dérangeait pas. Il disait, OK, c'est correct, je vais en faire, moi, d'abord. J'aime utiliser le mot ambition parce que on l'associe souvent à la persévérance. C'est vrai, c'est quelqu'un de très persévérant, mais à la base, c'est qu'il avait une ambition. À l'époque, là, il y avait très peu de Canadiens français qui réussissaient en affaires, puis lui, il se faisait un point d'honneur de prouver que c'était possible. Il voulait montrer qu'un francophone pouvait réussir.
Ce que j'en retire, c'est que derrière l'invention de Joseph Armand Bombardier, bien, il y avait surtout cette ambition-là de vouloir améliorer la qualité de vie des Québécois et Québécoises de l'époque. Je me demande si c'était la même chose qui motivait Alphonse Desjardins et sa femme Dorimène, qui sont à l'origine du mouvement Desjardins. Pour découvrir la réponse, bien, on s'en va à Lévis, dans la maison où la première caisse Desjardins a été fondée. On va rencontrer l'historien Pierre-Olivier Maheu, qui en connaît long sur l'histoire des Desjardins.
Bonjour. Je m'appelle Pierre-Olivier Maheu, je suis historien au mouvement Desjardins. Monsieur Desjardins, il décrit les caisses comme étant le chaînon manquant. À cette époque-là, il n'y a pas d'institution financière pour les jardineurs. En fait, il y en a pour l'épargne, mais monsieur, madame, tout le monde ne peut pas aller demander un prêt là. Ce qui fait que les jardineurs, il n'y avait pas de place où aller pour je veux m'acheter une maison, je veux m'acheter un petit commerce, j'ai besoin d'un petit peu d'argent pour faire rouler mon commerce en ce moment. Il n'y a pas d'institution qui répondait à ce besoin-là. Le coup de génie ou l'éclair là, qui fait qu'il se lance là-dedans, il en a souvent parlé lui-même, puis on sait la date précise, donc ça se passe le 6 avril 1897, c'était à la Chambre des communes, donc il est à son travail au Parlement, lui il était sténographe. Puis il entend un député qui dépose un projet de loi pour combattre les prêts usuraires, puis l'exemple qu'il donne, il dit que il y a quelqu'un qui a été condamné en justice à rembourser 5 000 sur un prêt initial de 150 $. Donc ça, c'est 3 000 d'intérêt par année. Fait que M. Desjardins entend ça, puis il dit, tu sais, ça n'a aucun bon sens, il faut faire quelque chose. Fait que là, il va passer 3 ans à faire de la recherche. Il y a la bibliothèque du Parlement où il peut aller, il écrit à des gens en Europe, puis s'inspire beaucoup des modèles qu'il y a là-bas. Ce qu'il veut faire, dans les mots de l'époque, là, il dit, on veut permettre aux membres d'atteindre l'indépendance économique, on veut favoriser l'esprit d'initiative, l'industrie locale. Puis ce qu'il disait aussi beaucoup, c'est peut-être t'as pas grand-chose à mettre de côté, peut-être 5 cents, 10 cents, 25 cents à tout casser, tu sais. Mais faut pas que tu t'empêches de mettre de côté parce que c'est un petit montant. Parce qu'après ça, c'est la force collective et la force du groupe. Si tu mets toutes ces 10 cents-là puis ces 25 sous-là en commun, là, tu te retrouves avec un montant qui est intéressant. Puis à partir de ce bassin de capitaux, ben là, tu peux faire du crédit dans les bonnes conditions aux gens qui en ont besoin.
Ce que j'en comprends, c'est qu'à l'époque, les ouvriers, les agriculteurs, les petits commerçants, bien, ils n'étaient pas vraiment desservis par les banques traditionnelles. Puis ils devaient se tourner vers des prêteurs privés qui leur imposaient des taux d'intérêt exorbitants. L'idée d'Alphonse et de Dorimène Desjardins, c'est de créer un modèle coopératif, plus juste et plus accessible, où est-ce que tous les membres sont aussi propriétaires.
Lui, il voyait ça vraiment comme une institution pour les Canadiens français. Puis en même temps, il était très, très volontaire pour que ça se répande partout aussi, là. Je pense qu'il y avait un réel désir d'aider les gens. Puis un vrai désir de se prendre en main, puis tu sais, on va faire des choses.
Un réel désir d'aider les gens. On dirait que cette idée-là, ça a motivé beaucoup de nos entrepreneurs de l'époque. Puis c'est beau de voir que leurs initiatives continuent à faire des petits aujourd'hui. Maintenant, on s'en va rencontrer Marie-Pierre et Hugo Germain, coprésidents du groupe Germain depuis juin 2025. Le groupe Germain, c'est un pilier du milieu de l'hôtellerie, puis je suis vraiment curieux d'en apprendre plus sur ce qui pousse à rêver grand. Le groupe Germain, ça a vu le jour... C'est la troisième génération? Aujourd'hui, je parle à la troisième génération ou la deuxième?
Oui, mais en fait, officiel, si tu regardes concrètement, là, nos grands-parents, Victor et Huguette, en 57, ont parti une tabagie à Québec. Après ça, l'hôtellerie est arrivée en 88, plus tard, naturellement, après la restauration et ces choses-là. Mais donc, on est troisième génération.
Troisième génération. Ouais.
Puis, on est très fiers de tout ce que notre grand-père, justement, nous a transmis en termes d'innovation, d'audace. Il parle de la tabagie, mais quand il a ouvert ce comptoir lunch-là, il a été le premier à amener une machine de crème glacée molle à Québec. Il a été le premier à livrer les journaux le jour même, à Sainte-Foy. Tu sais, si on connaît Québec, Sainte-Foy, c'est comme voisin. Mais les gens recevaient les nouvelles le lendemain. Il dit, non, dis-moi, c'est pas vrai, là. Je vais servir mes clients avec les journaux du jour. Fait que, tu sais, ce concept d'innovation-là a vraiment fait partie de nos valeurs depuis ce moment-là.
Là, maintenant, vous gérez un groupe de plusieurs milliers d'employés. Comment on...
1500.
Ouais. Comment on fait pour être une figure... inspirante auprès de tous ces gens-là pour qu'ils rentrent dans le même bateau.
Tu le dis, tu sais, c'est 1500 employés, mais c'est surtout étalé dans 11 villes. 7 provinces, ouais. 11 villes, donc vraiment, puis bientôt Vancouver. Donc, on va être d'un océan à l'autre. Puis je te dirais que c'est beaucoup par la transmission du savoir-être, du savoir-faire, tu sais. Clara, la sœur d'Hugo, travaille aussi dans l'entreprise. Puis Clara fait partie de l'équipe, justement, pour transmettre cette culture-là d'entreprise qui est si importante. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est un travail d'équipe, je te dirais. Puis nos valeurs familiales sont vraiment importantes. On les partage, puis on s'assure aussi que les gens se connectent à ça.
Oui, puis en même temps, on essaie de donner aussi le maximum de latitude à notre monde. Parce qu'on dit souvent que notre monde, là, qui sont à l'avant de l'hôtel pour accueillir nos invités, ils ont l'opportunité de transformer la journée de quelqu'un. Tu sais. Parce qu'on peut imaginer, on a maintenant bientôt 20 hôtels au Canada. Le potentiel de faire du bien à travers tous nos hôtels, c'est vraiment exceptionnel. Puis on essaie de rester pertinent puis faire des initiatives qui sont porteuses.
Le groupe Germain part d'une tabagie il y a 75 ans, puis là maintenant vous êtes rendu à 20 hôtels coast to coast. Est-ce que ça a toujours été, sans nécessairement être ça le but, est-ce que de croître puis d'avoir cette ambition-là, tu sais, de rayonner partout au Canada, ça a toujours fait partie de vos priorités?
Ça fait longtemps que c'est ça. Ça fait longtemps que notre objectif, c'est de justement s'établir surtout à Vancouver, parce qu'on était à Calgary, on a ouvert le Germain Calgary en 2010, mm-hmm. et on regardait déjà pour vouloir s'établir à Vancouver. Avant ça. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais je te dirais que tu parles de la tabagie, tu sais, de Victor, mais ça a toujours été de garder ça à échelle humaine. Mm. Puis ouvrir des hôtels pour ouvrir des hôtels, c'est pas l'objectif. Tu sais, c'est de garder un sens à ce qu'on fait, d'avoir du plaisir, évidemment, puis de continuer de faire vivre des choses aux gens. À travers la croissance, ce qui est vraiment important, c'est qu'on reste soi-même, qu'on reste fidèle à nos valeurs puis les choses qui sont importantes pour nous.
En tout cas, partir d'une petite tabagie à Sainte-Foy, puis aujourd'hui avoir 19 hôtels partout au Canada, c'est quand même pas rien. Ce que je me rends compte en approfondissant le parcours entrepreneurial de ces personnes-là, c'est que ce qui a motivé l'essence même de leur projet, c'est pas nécessairement de faire de l'argent, c'était la mission derrière, de venir répondre à un besoin, que ça soit de donner de la job à leur communauté, que ça soit de leur donner des leviers financiers de pouvoir les héberger. Bref, je pense qu'on peut se le dire, au Québec, on n'en a pas manqué d'ambition. J'ai envie de laisser le mot de la fin à Guy Cormier, qui a assuré la présidence du mouvement Desjardins pendant 9 ans. Quand on s'est parlé, M. Cormier avait des choses hyper intéressantes à dire à propos de l'ambition québécoise.
Quand je regarde les 50 à 75 dernières années du Québec, là, on s'est construit là, à 5-6 millions de population à ce moment-là, là, un système d'éducation, un système de santé, des infrastructures, on a développé un écosystème entrepreneurial, on s'est développé des talents sportifs, culturels, qui rayonnent à travers le monde. Je veux dire, on n'a pas à être gêné de nos 50, 75 dernières années comme peuple d'avoir pris notre place, d'avoir été inventif, innovant, d'avoir pris des risques. La baie James, l'hydroélectricité, écoute, je pourrais en nommer dans plein de secteurs comme tel. On a créé Desjardins qui fête ses 125e année cette année. T'en as pas d'organisation comme ça, grande comme ça en Amérique du Nord, qui a été construit par les Québécois, Québécoises, là, au début. C'est ça qui s'est passé. Ceci étant dit, aujourd'hui, en 2025, je pense qu'on est dans un point de vigilance. On a des nouveaux enjeux qui émergent. Vieillissement de la population, des infrastructures qui sont vieillissantes, des besoins liés au changement climatique. Donc, il y a des nouveaux défis qui émergent devant nous qui sont différents de ceux qu'on avait peut-être dans les années 50, 60, 70. Mais là, c'est comment il faut se mettre dans le même état d'esprit puis innover autant, oser autant, prendre des risques autant. Moi, je vois pas qu'on est pour un petit pain. Là, je vois des gens qui ont été ambitieux, qui ont osé, qui ont relevé des défis. Je pense que le défi aujourd'hui, c'est qu'on se compare plus juste à la province voisine ou aux pays voisins, on se compare à la planète.
Ça, bien, ça fait un très beau lien avec notre prochain épisode dans lequel on va rencontrer des Québécois et Québécoises qui brillent à l'international. J'ai envie de découvrir comment ces gens-là ont été capables de rayonner à l'extérieur de nos frontières puis devenir des sommités dans leur domaine. On se retrouve bientôt au cœur de l'ambition.